Vous écoutez
RMC. RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Georges Quirineau.
La dernière heure des grandes gueules du sport avec Pascal Duprat, Christophe Cessieux, Marc Madio et Sarah Pilkowski. Et on accueille pour cette dernière heure avec nous, elle est bien connue de la maison, c'est Cécile Hernandez, championne paralympique de snowboard cross. Salut Cécile.
Salut, bonjour tout le monde.
Salut. Bonjour Cécile.
Il y avait un événement hier à Paris parce qu'on est, on se rapproche des Jeux Olympiques et Paralympiques d'hiver à Milan et Cortina. Ça se présente bien. Est-ce qu'un nouveau titre peut arriver?
Il peut arriver. En tout cas, on fait tout pour. Je reviens quand même d'une période un peu compliquée de blessures, mais avec une saison, la plus belle saison depuis que je suis en carrière, avec un titre de championne du monde toute seule, un titre par équipe, le petit globe de cristal et le globe de cristal, pardon. Mais des bobos, des gros bobos qui ont fait poser beaucoup de questions à la fin de la saison, à savoir si je continuais ou si je m'arrêtais sur cette belle année. Mais à quelques mois des Jeux, je ne pouvais pas continuer et j'avais trop envie d'aller pas remettre cette médaille en jeu. Tout le monde me dit, tu vas remettre cette médaille en jeu. Mais pas du tout, ma médaille, elle est à moi.
C'est bon.
Je la garde. Maintenant, aller en rajouter une autre au palmarès, avec grand plaisir.
C'est du bonus, effectivement. Et tu t'es préparé, tu nous le disais, du côté du Stelvio en Italie. Tout de suite, les yeux de Marc se sont allumés. Stelvio, je renvoie Giro, là-bas.
Giro, le Gavia à côté.
Ah oui, là, c'est effectivement un lieu mythique. Dans quelques instants, tout de suite même, on va aller en Italie parce que le Tour de Lombardie, figurez-vous, vient de s'élancer, mon cher Johan Bredov. Bonjour, on va vivre avec ça toute la journée avec toi.
Salut Georges, salut à tous. C'est parti depuis 2 km. Voilà, exactement, voilà. T'arrives au bon moment. C'est parti avec les premières attaques, notamment du moustachu, belle moustache de Quinn Simmons qui est encore là. L'Américain.
Déjà à l'attaque.
Déjà à l'attaque, Quinn Simmons. Il lui reste 238 km à faire. Ils sont beaucoup à l'attaque. Michael Matthews également à l'avant. Rien que quand on dit ça, on voit le plateau parce que c'est deux grands noms que je viens de citer qui essaie de partir, d'anticiper donc dès ce début entre Côme et Bergame. 238 km encore à parcourir avec évidemment un immense favori, Tadej Pogacar, pour aller faire la passe de 5 tours de Lombardie consécutifs. Donc pour Tadej Pogacar, c'est peut-être ce qu'il attend tout à l'heure, donc à Bergame.
On continue de suivre ça avec toi tout au long de la journée. Et puis un œil aussi sur la demi-finale de Masters 1000 à Shanghai. Tiens, le monégasque Vacherot a réussi à débreaker. Il mène désormais 3-2, service en cours pour Novak Djokovic. On attend évidemment ensuite Arthur Rinderknecht face à Daniil Medvedev. Dans un instant, les GG sur le buzzer, on aura ce débat. Oh, Cécile, je sens qu'il va te plaire. Des sports sans neige et glace au JO d'hiver. L'hypothèse est-elle ridicule? Peut-être qu'un jour, on verra. Teddy Riner, Jeux Olympiques d'hiver. Ah, attendez, on en parlera tout à l'heure. Vous allez voir. Et puis en fin d'émission, participez au jeu du sport avec vos GG. Emportez votre PC portable Altic, marque française d'ordinateur installée à Nantes. Pour participer, appelez le 3216, touche 4 ou envoyez sport au 7-32-16. Sport au 7-32-16. Mais tout de suite, les GG, vous nous ouvrez la porte de votre vestiaire.
RMC, le vestiaire des GG.
Et Cécile nous l'a expliqué il y a quelques instants, effectivement, on ne pouvait pas rater encore des jeux, même s'il y a déjà une médaille d'or. Donc, on voulait profiter de ta présence, justement, pour que le sujet du vestiaire soit un petit peu celui-là, des rendez-vous un petit peu importants. Les GG, à travers vos expériences, je voudrais qu'on parle de ça, de comment aborder la compétition, la course, le match d'une vie. Comment est-ce qu'on prépare tout ça? 32-16 et au WhatsApp 06-12-424-424, si vous avez une question à poser à vos GG. Tiens, Cécile, avant de t'écouter sur les jeux, Marc, on en a un petit peu parlé avant. Toi, il y avait Paris-Roubaix, notamment, pour toi, qui était la course de l'année, peut-être.
La course de l'année, plus que la course d'une vie. En cyclisme, on a cette chance d'avoir un calendrier extrêmement dense tout au long de l'année, ce qui fait que la course d'une vie, c'est pas vraiment la course d'une vie, c'est la course de la saison, en plus.
Et alors, c'était comment? T'étais comment?
Non, mais moi, j'étais... prêt dans ma tête pour aborder un événement où je pensais que je pouvais réaliser quelque chose d'important. Après, une fois dans l'action, je me suis fait une réflexion qui m'est toujours restée. À une heure de l'arrivée à peu près, je me suis dit, aujourd'hui, tu vas savoir si tu peux ou si tu ne peux pas. C'est la seule fois de ma carrière où je me suis posé cette question en étant sur le vélo. Je sentais que j'avais les arguments, que j'avais les ingrédients.
Là, tu parles de l'année où tu l'as gagné la première fois en 85.
Ouais. Je me suis dit, aujourd'hui, tu vas savoir si tu peux ou si tu ne peux pas gagner un grand truc. Et en fait, à une heure de l'arrivée, je savais que j'avais les ingrédients. Alors, une fois que la course est terminée, si ça s'était mal passé, on trouve toujours des arguments pour dire j'aurais pu faire ci, j'aurais pu faire ça, j'ai pas eu de chance, j'ai eu ci ou j'ai eu ça. Mais au fond de moi-même, je savais que j'aurais une réponse. Mmh. Voilà.
Mais est-ce qu'il y a des jours au départ de Paris-Roubaix où tu la journée de ma vie, ça va être la course de ma vie. Ça, tu ne peux pas le savoir.
C'était pas c'est la course de la vie. C'était plus ma course de l'année que la course de ma vie. Une seule fois dans ma carrière, je me suis retrouvé en situation en me disant ça à une heure de l'arrivée. Aujourd'hui, tu vas savoir où tu vas avoir la réponse à ce que tu peux être et à ce que tu peux gagner. Mais c'est autre chose que l'état de grâce. C'est que je savais que j'avais les ingrédients. Est-ce que j'allais être en capacité mentale de conclure ce que je sentais que j'avais en moi? Voilà. Mais je savais que ça dépend. J'avais le sentiment ultime et profond que je savais que ça ne dépendait que de moi. Ouais. C'est-à-dire qu'il y avait la concurrence en face. Il y avait Moser, il y avait Kelly, il y avait Van der Harden et compagnie. Et dans ma tête, je les voyais tout petits, comme j'ai parfois dit à Mikro, je les voyais porte-clés. J'ai dit, quand vous voyez vos adversaires comme des porte-clés, vous êtes sûr que vous allez pouvoir les battre.
C'était ça, Marc, dans
ma tête.
Pascal. Tout ça dans ta tête parce que physiquement tu te sentais.
Parce
plus
que
la course avançait,
et
tu sentais que t'avais les jambes, quoi.
Je sentais que j'avais les jambes et surtout j'étais serein par rapport à ce que j'avais fait en amont pour être prêt le jour J.
Pour moi, le plus important, quand on prépare la
course d'une vie, puisqu'on est sur ce schéma-là, la course d'une vie, ça devient la course d'une vie quand on a fait tout ce qu'il fallait avant.
Mais oui.
Si on est arrivé à moitié préparé en ayant loupé ci ou ça.
Tu la coches dans ton planning. Tu dis, je veux.
J'avais rempli toutes les cases.
Voilà. C'est-à-dire que tu veux arriver au sommet, au pic de forme, à un objectif précis. C'est ça qu'on nous demande aujourd'hui. C'est comment un pic de forme, c'est-à-dire quand on s'est fixé un objectif, comment on arrive pour être le plus près possible à cet objectif?
Parce que c'est vrai que vous êtes un peu des êtres un peu particuliers, hein, les sportifs de haut niveau, avec des rendez-vous comme ça très importants dans la vie de tous les jours. C'est pas des trucs qui arrivent autant. En plus,
tu peux le transposer dans la vie de tous les jours.
Oui. Tu peux le transposer dans la vie de tous les jours. Mais c'est vrai que vous, il y a un niveau d'exposition également sur ce jour-là. Moi, si je rate une émission demain, ça va pas faire un débat en toute la France. Hein.
On sait jamais.
Non, mais Cécile, toi, tu vas aborder encore des jeux. Par exemple, comment t'abordes ça? C'est des semaines avant, on y pense, on dort moins bien, on y pense tous les matins.
Tu vois, je rebondis sur ce que vous venez de dire tous les deux, c'est que la question qu'on posait souvent à Carl Lewis, c'est quels sont tes objectifs? Et il disait que pour réussir, il fallait que je réussisse déjà chacun de mes entraînements. Yep. Et aujourd'hui, je suis dans ce mood, en fait. C'est-à-dire que je me mets dans mes rituels, et j'en ai plein. Il m'appelle un peu la Nadal du snowboard, parce que je fais plein de trucs au départ.
Ah ouais?
Mais je me mets dans ce...
Au niveau du short aussi, pareil?
C'est ça, pareil. Les cheveux, la petite mèche derrière l'oreille, il y a de la sueur.
C'est des tocs?
Oui. Non, c'est pas des tocs. Non, pas du tout.
C'est un protocole.
Je sais que... Et je sais qu'il faut que je fasse ça.
Qu'est-ce que tu fais, par exemple?
Je tape sur mes jambes déjà, je tape sur ma poitrine, je tape sur ma tête et après j'embrasse l'alliance de ma maman que j'ai perdue et que je porte à la main. Ouais. Et après on sait que quand je mets les mains, quand j'ai embrassé ma bague, que j'ai regardé le ciel et pointé du doigt le ciel, je mets les mains sur les points de départ. On sait que tout le monde sait que je suis prête.
Ça te connecte au réel en fait.
Ça me connecte pas au réel. Ça me connecte à ce pourquoi j'ai été programmée et ce pourquoi je me programme tous les jours. Et aujourd'hui, j'en parlais encore hier avec mon coach de l'équipe de France, je veux qu'on mette ça en place à chacun de mes entraînements parce que le jour des Jeux, ça sera juste une répétition générale avec la pression, certes, mais une bonne pression. Et cette pression-là, je l'aurai travaillée mentalement avec mes préparateurs physiques et mes préparateurs mentaux.
Ce rituel permet finalement de gommer le fait que ce soit une course si particulière et si importante pour toi.
Ça l'est. Et là, j'ai rajouté un truc qui déstabilise mes adversaires, c'est que je souris.
Ah.
Ouais. Et je souris parce que même si je suis dans les yeux. Ouais, c'est ça, c'est la zénitude, c'est le fait de m'envoyer déjà un signal. À partir du moment où je souris, je m'envoie une impulsion positive. Je sais que je suis dans le bon truc. Et les nanas que je regarde à côté, chose que je ne faisais pas du tout avant, je tournais le dos à tout le monde. Maintenant, je les regarde et elles se disent, et tu vois, c'est elles qui baissent la tête. Avant, c'était moi qui arrivais dans la grille de départ, le regard un peu bas. Maintenant, je regarde tout le monde dans les yeux et je souris en mode, Yes, je suis là.
Comment aborder la compétition d'une vie, c'est du vestiaire.
Marc, au départ de Paris-Roubaix, tu souriais de tes adversaires.
Non, mais je me retrouve dans ce qui vient d'être précisé. Moi, par exemple, sur chaque fois que je montais sur un vélo ou que je devais partir, j'enclenchais toujours la pédale droite avant la pédale gauche. Ouais. Quand je mets mes chaussures le matin et je le fais toujours, je mets toujours la chaussure droite.
Ouais, mais c'est de la superstition.
Non, c'est des routines. C'est des routines
je
dans
me conditionne par rapport à un événement.
Il faut que tu rentres dans une concentration extrême et tu le fais pas dans un claquement de doigts. Et donc, l'être humain, il a besoin de rentrer dans tes routines pour finalement se vider la tête et de pouvoir,
Regardez, on est autour de la table, hein. On est autour de la table des GG.
Mais.
Regardez bien, on est installé.
Tous au même endroit, Dieu.
On revient toujours à la même place. Et regardez ce qui se passe quand vous entrez pour la première fois dans une salle de réunion, par exemple pour un conseil d'administration. Alors vous avez en général le président qui s'installe. Et en général, les gens reprennent toujours, systématiquement, la place qu'ils avaient la fois précédente. Donc c'est pour ça que la première fois qu'on rentre dans un conseil et qu'on rentre dans une assemblée, il faut bien faire attention où on s'installe la première fois.
Pascal, on t'a pas entendu encore.
C'est la même chose dans un bus, non ? C'est pas ça ?
Ouais. Pareil dans un bus, dans une équipe, dans un vestiaire.
En fait, oui, la distinction entre ce que vous m'avez dit, qui est magique, ce que j'entends de Marc, et ce que j'entends de vous tous, ça m'inspire beaucoup. Moi, c'est du sport collectif. Mais néanmoins, et en plus, vous adressez à quelqu'un qui a jamais rien gagné de significatif chez les professionnels. Donc moi, je vais vous dire, j'ai anticipé le fait que j'allais jamais rien gagner d'exceptionnel.
Le match contre Angers, tu l'as gagné celui-là, non ?
Oui, mais
il t'a permis de rester en Ligue 1. C'est comme une victoire en Coupe de France, Pascal.
Que j'ai été joueur, quand j'étais joueur ou quand j'étais entraîneur, tous les matchs de Division 1 ou de Ligue 1, pour moi, étaient des matchs que je ne banalisais pas. Donc, ce qui était important pour moi, c'était de bien se préparer. Ça rejoint ce que vous disiez. À partir du moment où je savais que j'avais fait le maximum à titre individuel quand j'étais joueur, parce que quand j'étais joueur à titre individuel, j'avais pas beaucoup d'impact sur la préparation individuelle de mes collègues, vous en conviendrez. Et ensuite, quand j'ai été entraîneur, là, j'avais davantage d'impact sur la préparation de chacun de mes joueurs. Tout ce qui m'importait, c'était donc d'être préparé pour l'événement, le match important, le match qui n'était pas le match d'une vie, mais le match, tous les matchs pour moi étaient les matchs d'une vie. Le prochain allait être le match d'une vie. Et à partir du moment où tout le monde était prêt, tout le monde avait la conscience d'avoir fait le maximum, moi ce qui m'importait, c'est qu'on revienne au jeu. C'est-à-dire qu'on dit, c'est noble, le football, on dit jouer au football. Donc pour moi, ce qui m'importait, c'est que les joueurs donnent le maximum, la meilleure version d'eux-mêmes, le match qui nous importait. Et bien souvent, j'ai renversé des tendances. J'ai la faiblesse de le penser parce que régnait une atmosphère où puisque tu avais fait le maximum à l'entraînement, puisque chaque fois tu avais été minutieux dans ta préparation, il n'y avait aucune raison que tu ne sois pas capable de défendre tes couleurs et de bien conduire le match qui allait t'opposer à ton adversaire. Voilà ce qui m'a toujours conduit alors que j'étais joueur ou lorsque j'étais entraîneur. Voilà, cet état d'esprit, c'est quelque chose pas tangible, si vous voulez, mais quelque chose que l'on ressent, et qui est développé, augmenté lorsque il y a l'effet de groupe qui ensuite vient encourager tout cela. Quand chacun des joueurs présents dans le vestiaire est certain qu'il a fait la meilleure préparation possible, qu'il a donné on sait qu'il va donner la meilleure version de lui-même, et à partir de là, il n'y a aucune raison qu'il ne soit pas compétitif.
Cécile.
Moi, je suis totalement d'accord. Et puis, cet esprit, moi, je fais un sport individuel, mais dans une équipe. J'ai du staff autour de moi, j'ai mes coachs, j'ai le kiné. Et en fait, toute cette rigueur aussi que je mets en place pour réussir chacun de mes entraînements, que ce soit, on en parlait avec Sarah hors antenne, j'ai beaucoup travaillé sur ma préparation mentale suite à mes blessures là cette année. Mais en fait, ça me simplifie la vie. Ça simplifie aussi la vie de tout le monde. Quand le coach me voit en train de rembrasser ma bague, il sait qu'il va pouvoir venir me faire parce que c'est un protocole. Ce sont pour moi des ancrages positifs qui vont m'aider. Et en fait, tout ça, c'est simple. C'est que moi, j'ai telle étape. On parlait des petits trucs fétiches, le fait de mettre la chaussette droite, la chaussette gauche. On en a eu beaucoup de trucs avec Zidane ou cette pub et tout. Mais moi, on va rentrer un peu dans le dans le touchy, mais j'ai mes sous-vêtements fétiches aussi parce qu'ils sont ancrés et liés à des compétitions. Mais ça me rassure, ça me fait du bien. C'est quelque chose.
C'est une façon d'aborder effectivement les moments importants.
Mais complètement. C'est de rentrer dans une concentration ultime en fait. Mmh. Alors moi, c'est totalement l'inverse. Moi, mon expérience, c'est juste les limites que je me suis mise. C'est-à-dire que je voulais pas mettre des objectifs parce que j'avais peur de ne pas toucher l'objectif du doigt. Et comme nous, le tennis, c'est
donc
toutes les semaines.
Donc, tu banalisais l'événement. Quoi.
Exactement. Et comme nous, on a un sport où il y a du jalonnement toutes les semaines, en fait, de ne pas affronter l'objectif, Père me dit, oh, c'est pas grave, j'en ai un autre la semaine d'après. Et ça a été ma propre limite. Et je préparais Roland-Garros comme un tournoi comme un autre. C'est absurde. Ça peut pas être qu'un tournoi comme les autres. On joue à la maison. On joue devant son public.
Avec le recul, c'était pas un facteur limitant pour
mais
toi,
ça
avec
n'était
le recul.
Que des limites. C'est ce que j'avoue, ça n'a été que mes limites.
Quand
de
tu
ne
rentres
pas
à Wimbledon sur Center Court, peut-être, face à Venus Williams, c'était au troisième tour de Wimbledon. L'année d'après, je crois que tu joues à Monica Seles. C'est pas les matchs où t'as eu une façon
non, parce
particulière
qu'en fait,
de
la peur d'affronter l'échec faisait que je me défilais.
Donc tu
et
disais,
parfois,
en face, ouais, c'est une...
Mais même parfois, je faisais exprès de ne pas faire un entraînement ultra parfait. Pour me dire, si par hasard, je gagne pas, je pourrais trouver une explication objective au fait. Mais comme il y avait chaque semaine quelque chose, il y avait toujours une bonne surprise qui arrivait. Parce que quand tu t'entraînes 50 heures par semaine et que tu joues toutes les semaines, t'en gagnes des matchs. Oui, t'en gagnes forcément. Donc celle-là est compensée le fait d'avoir peur de fixer un grand objectif.
Comment aborder la compétition d'une vie, c'est le sujet du vestiaire.
Tu vois, justement, je t'entends parler de peur. Eh ben, pour moi, la peur, elle est hyper productive.
Oui. Parce que tu te dis,
ok, j'ai peur, mais pourquoi j'ai peur? Et maintenant,
c'est pas des bonnes appréhensions plutôt, des peurs
positives.
Parce
qu'en face de ta peur, tu mets tous les dispositifs techniques, mentaux, le sommeil, tout ce que tu as besoin de mettre en face de tout ça pour pouvoir contrer cette peur et te dire, ok, j'ai peur, mais pourquoi? La peur, pour moi, c'est hyper positif. C'est quelque chose qui va te permettre de mettre en lumière et de mettre des highlights sur des choses qui vont te permettre de mettre en place avec ton coach, physiquement, mentalement, différentes choses.
Mais si c'était à refaire, je le ferais totalement différemment. Okay. Mais je n'avais pas ce recul qui me permettait, j'avais pas soit la maturité, soit le recul, de rentrer là-dedans. Donc en fait,
est-ce que tu faisais de la prépa mentale?
Je fais tout ce qui pouvait possible et inimaginable, mais il y a une vingtaine d'années, je n'avais pas le recul. Et si je jouais avec des années supplémentaires, peut-être que j'aurais. Quand on parlait d'expérience, elle sert à ça, l'expérience. Mmh. C'est qu'il y a un moment, on se connaît mieux. Et donc, on peut ajuster ses préparations.
Dans l'approche, pour le coup, c'est intéressant. Toi, tu banalisais peut-être la situation. Toi, Marc, tu parlais de Paris-Roubaix tout à l'heure. Combien de temps... tu banalisais pas Paris-Roubaix, déjà?
Je banalisais pas.
Combien de temps avant, tu pensais à ça?
Ça pouvait être plusieurs mois. Moi, je me conditionnais et je m'imposais des exercices de volonté.
C'est-à-dire
que, par exemple, au mois de décembre, au Nouvel An, à Noël, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige...
Tu sortais.
Je sortais.
Tu mettais les pavés devant chez toi et...
Non, je mettais pas les pavés. Mais je sortais parce que je me disais, moi je vais le faire et les autres vont pas tous le faire. Ouais. Donc si moi je le fais, je vais me donner un petit avantage, un micro-avantage. Et je me conditionnais par rapport à ça en permanence. Et ça, j'ai commencé à le faire dès chez les cadets.
Tu faisais
le 31 décembre, il y avait le réveillon. Le 1er janvier au matin... Je montais sur le vélo parce que je me disais, moi je le fais, les autres ne vont peut-être pas le faire ou ne le font sûrement pas. Alors c'était microscopique ce que je réalisais, mais c'est un exercice de volonté. Et souvent je dis à mes coureurs, imposez-vous des exercices de volonté. L'exercice de volonté, c'est par exemple de partir à l'entraînement à 8h30 ou à 9h,
oui,
là où les autres vont partir à 10h.
C'est
très simple, c'est des toutes petites choses. Mais si on arrive à se les imposer, ça devient une force et ce n'est plus un handicap, ça n'est plus une difficulté, ça n'est plus quelque chose de difficile à réaliser, ça devient un atout. Et quand on arrive à transformer les difficultés et les contraintes, quand on transforme les contraintes en force, en avantage, tout devient plus facile.
pour aborder la compétition. Un dernier mot, Cécile.
Moi, je fais pareil. Et j'essaie toujours de repousser un peu les limites, de me dire d'arriver un peu plus. Ben, ce que faisait aussi Wilkinson dans le rugby, il arrivait toujours avant et il repartait toujours après. Mais voilà, après, ça peut être quelque chose d'aussi addictif. Et moi, j'en ai beaucoup parlé avec mon préparateur mental, de pas tomber dans ce qu'on a appelé le syndrome de bigorexie pendant cet été. Mais je suis partante pour toujours en faire plus. Le coach, maintenant, il dit, écoute, c'est le dernier passage, maintenant j'écoute. Mais c'est vrai que je suis ultra conditionnée. Je rêve, j'ai un compte à rebours tous les matins. Bon, je peux vous dire qu'on est à 146 jours de ma course aujourd'hui. Et presque heure pour heure. Mais voilà, je me conditionne, je rêve, je mange, je. De toute façon, on est sportif de haut niveau, on veut atteindre l'excellence, donc il faut se la fixer tous les jours.
Et petite anecdote, chez les juniors, pour la première fois, j'ai rencontré Cyril Guimard. À mes tout débuts, mes entraînements étaient au pifomètre, je faisais un petit peu aux sensations. Et un jour, j'étais pas opérationnel, j'étais pas compétitif chez les juniors, et Cyril me dit, mais... tu marches pas là. Non, je marche pas, je sais pas ce que j'ai, je suis pas opérationnel. Il me dit, qu'est-ce que tu fais à l'entraînement? Bon, je lui raconte ce que je faisais à l'entraînement. Ben, il m'a dit, c'est très simple, tu t'entraînes pas assez. Ah bon? Ben, j'ai dit, oui, peut-être que je m'entraîne pas assez. À partir de maintenant, tu vas t'entraîner. Et j'ai fait 10 ans de carrière avec Cyril, il m'a dit une seule fois en 10 ans, tu t'entraînes pas assez. C'était cette fois-là.
Ah ouais.
Et il m'a toujours dit aussi, tu sais, le corps, si tu t'entraînes trop, il saura te dire que tu en fais trop. Donc tu ne t'entraînes jamais assez. Voilà.
Comment se préparer à un événement, à la course d'une vie, au match d'une vie, ou tout simplement à des moments importants de vos carrières? C'est fascinant de vous écouter. Franchement, vous êtes quand même des prédateurs et des prédatrices. À sang froid, on sent que vous montez en température dès que vous voyez votre proie qui s'approche. Pour les sauts que vous êtes dessus, c'est souvent une médaille ou une victoire ou un trophée.
On se conditionne pour les jeux.
Ah, ça va être terrible, alors je sens. Dans quelques instants. Tiens, d'ailleurs, je vous donne juste un score. Figurez-vous que Valentin Vacherot, le monégasque, est en train de battre Novak Djokovic. Il a remporté le premier set 6-3. Djoko qui a quelques problèmes physiques. Hein. Il a fait appel au physio. Il a l'air d'avoir mal en bas du dos. Masters League de Shanghai.
Un classique quand il perd. Attention,
je vous rappelle que l'autre demi-finale opposera Daniil Medvedev au cousin de Valentin Vacherot, le français, Arthur Rinderknecht. Et si on avait un cousin Nico en finale à Shanghai pour ce Masters 1000, il a pas bien, Djokovic. Dans quelques instants, on va retourner également sur les routes du Tour de Lombardie. Mais surtout le buzzer, on va se poser la question sur l'avenir des JO d'hiver. Fini par un message WhatsApp. Est-ce que Christophe peut nous expliquer sa préparation quand il fait un match face à Marion Bartoli? Allez, on revient dans quelques instants. À tout de suite.
RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Georges Quirino.
Avec Cécile Hernandez, Sarah Pitkowski, Pascal Duprat, Marc Madio, Christophe Cessieux. Tiens, on salue Pézin qui nous envoie un message sur WhatsApp. Merci pour votre émission, je vous écoute tous les week-ends en bricolant au jardinage. Bah, on est très heureux de l'accompagner en ce week-end. On espère que ça l'a motivé là du coup. Jardinage, c'est le rendez-vous de ma vie. je vais faire un truc avec les jardins de Versailles, ça va être incroyable. Dans un instant, les jeux du sport. Quel GG connaît le mieux le sport? Et puis, c'est le moment de vous inscrire pour jouer à notre nouveau jeu, les poupées russes RMC. Chaque poupée cache un cadeau. Vous savez, c'est les poupées qui s'emboîtent là comme ça. Voilà, il y a un iPhone, console de jeu, voyage jusqu'à 5000 euros. Envoyez RMC au 732-16. RMC au 732-16 pour vous inscrire. Novak Djokovic a perdu le premier set face à Valentin Vacherot, le monégasque. 6-3. Deuxième set en cours. Le Tour de Lombardie s'était lancé depuis quelques minutes. On va y retourner dans quelques instants. Mais d'abord, est-ce que vous imaginez Teddy Riner envoyer un gros hippon au JO d'hiver?
Teddy est placé en air bordure. Kim Il-jong qui essaye de se sortir.
C'est bon, c'est bon.
Oui,
t'as froid?
Pauline Ferrand-Prévot qui passe la bosse, qui peut lever les bras, qui serre le poing, qui lève le poing, le sourire aux lèvres. C'était son Golgotha, ces Jeux Olympiques. Et bien le Golgotha se transforme en paradis. Pauline Ferrand-Prévot, championne olympique.
Qu'est-ce que c'est que ce pays? C'est pas possible. Il faut au moins 8000.
RMC. Les GG sur le buzzer.
Bah oui, peut-être qu'il aura bientôt froid, Teddy Riner, en allant faire des JO d'hiver. Verra-t-on de nouveaux sports faire leur apparition aux JO d'hiver en 2030 dans les Alpes françaises? Alors figurez-vous que c'est une possibilité et même une volonté de Sébastien Coe, le président de la Fédération internationale d'athlètes, qui siège au groupe de travail du CIO sur le nouveau programme olympique. Donc bah, il est complètement dans ces discussions-là. Coe dit qu'il fera tout son nécessaire pour que le cross-country, donc c'est de la course à pied, et le cyclo-cross, c'est du vélo qui se dispute en hiver, soit inscrit au programme de l'événement. Il y a de bonnes chances que cela arrive, a-t-il confié aux médias anglais. Il en a parlé avec David Lapartien, président de l'UCI. Je le cite, évidemment avec le CIO, il faudrait une modification de la charte, car il faut de la neige et de la glace, et il n'y en a pas beaucoup ces derniers temps. Des décisions importantes doivent être prises l'année prochaine. Il inclut dans la réflexion plusieurs sports de salle, comme le judo, dont il dit qu'il est grand fan. Je veux au Grand Chelem de Paris en février, dit-il. Si vous avez des installations et des sports en salle, vous pourriez certainement les combiner. Il n'y a aucune raison de ne pas le faire. Il faudrait un modèle différent, une répartition différente, des revenus de diffusion, etc. Mais je pense que tout cela est désormais sur la table, ce qui est une bonne chose. Donc pourquoi pas avoir du judo au JO d'hiver? Sébastien Coe, il a vu ça en janvier à Paris, c'est du beau tiens, en fait. Pourquoi pas?
Bah, écoute, les principaux championnats de judo se déroulent l'hiver, comme les principaux championnats de hand se déroulent l'hiver, comme beaucoup de choses. Hein,
c'est pour ça qu'on vous pose la question.
Des sports en salle, donc on peut très bien imaginer que ça aille mieux en hiver.
Des sports sans neige et glace au JO d'hiver, l'hypothèse est-elle ridicule, Christophe Cessieux?
Pas du tout ridicule.
Marc Madio?
Non, pas du tout.
Cécile Hernandez?
Pas fan du tout.
Sarah Pilkowski?
Pas ridicule. Pardon.
Pascal Duprat?
Complètement ridicule.
Ah oui, là.
Mais ça, c'est le Savoyard, ça.
Ouais,
on a les Alpes.
Il y a plus de neige,
on a les Alpes.
En 30 ans,
c'est fini.
Et les Pyrénées sont représentées dans la grande gueule du sport. Il y a de l'équité. Cécile, tiens d'abord. Toi, t'es pas d'accord. Ridicule?
Ridicule. Parce qu'effectivement, là, on parle notamment le judo, qui est un sport en salle qui se pratique toute l'année. Après, on parle de deux sports extérieurs. Est-ce que tu réfléchis à inclure des sports dits d'été? Parce que effectivement, il y a le réchauffement climatique, mais est-ce qu'il faut réfléchir à inclure des sports plutôt, ou à réfléchir à des programmes pour préserver la planète, et préserver les stations, raccourcir peut-être les saisons, raccourcir l'ouverture des domaines skiables, l'exploitation des glaciers? Est-ce qu'il ne faut pas réfléchir plus dans le but de protéger la planète que de promouvoir encore des sports qui va générer encore plus d'athlètes, encore plus de billets d'avion, encore plus de ci, encore plus de ça, qui au final...
Hein.
Ben si tu rajoutes des disciplines.
Ben tu rajoutes des disciplines qui existent déjà.
Regarde ce qui s'est passé à Pékin en 2022. La neige hyper artificielle, t'avais une seule piste qui était en blanc dans toutes les toutes les montagnes chinoises.
Alors que faut-il
c'était
faire
l'ineptie totale.
Non mais je suis complètement d'accord. Donc plutôt
faut
que de réfléchir à ça.
Supprimer les sports d'hiver alors.
Non, plutôt que de réfléchir à ça, vous revenons comme on le fait pour les Jeux de France 2030 ou de Milan Cortina 2026. Revenons dans des pays où il y a des montagnes, où on peut exploiter justement les stations.
C'est un autre débat.
Oui, je suis d'accord, mais plutôt que d'aller produire de la neige, comme ça s'est fait à Sochi, le village il est mort de Sochi.
Ça c'est un autre débat.
Oui, réfléchissons plutôt à ce débat de replacer l'essence.
Le CIO se trompe de débat.
Mais bien sûr.
Non, mais après, aujourd'hui, il y a plus 50 000 candidatures pour les villes pour organiser les Jeux d'hiver. Les Jeux d'hiver aujourd'hui, ça coûte beaucoup d'argent, et vu l'état des finances, notamment des pays européens ou des pays américains qui sont les principaux organisateurs,
je suis d'accord, ça coûte de l'argent.
La place pour aller faire les Jeux. Est-ce que les Jeux aussi, les Jeux Olympiques, c'est pas l'universalisme? Et le problème des Jeux d'hiver qui se déroulent uniquement sur de la glace et sur de la neige, eh bien ça
c'est parce que c'est le principe des Jeux d'hiver,
une immense partie de la population mondiale. Oui,
Christophe, s'il te plaît.
De la montagne.
Franchement, vous êtes super sympa, bien.
Merci à toi.
Mais si vous écoutez, on fait rien alors.
Mais pas du tout. Je te dis qu'on rajoute des choses.
Le principe.
Moi, je suis désolé. Le cyclo-cross, c'est une discipline d'hiver qui n'a pas sa place dans le programme olympique d'été parce que il y a 50 épreuves de cyclisme et parce que t'as pas de boue en été les Jeux d'été. Donc, ce serait très bien de voir cette discipline qui a aujourd'hui formé la plupart des grands champions cyclistes. C'est le cyclo-cross. Eh bien, moi, je milite pour que cette discipline intègre le programme olympique rapidement.
À partir du moment où elle se déroulera sur la neige, je suis complètement d'accord avec toi. Parce que laissez-moi terminer. Laissez-moi terminer. Les Jeux Olympiques d'hiver. Ok. Le principe des Jeux Olympiques d'hiver. Arrêtons de me parler des problèmes financiers ou que sais-je encore. Parce qu'autrement, on peut parler aussi à ce moment-là remettre en cause les Jeux Olympiques formidables qui ont eu lieu en France. Ça a coûté du blé aussi. Donc arrêtez, s'il vous plaît, de mélanger. La question est bien. Amener des sports autres que les sports d'hiver pendant les Jeux Olympiques d'hiver. Donc pour ma part, je trouve ça complètement ridicule. Ça veut dire que les Jeux Olympiques d'hiver, à votre sens, sous prétexte que vous êtes des citadins, sous prétexte que parmi vous, ou que ça ne concerne qu'une infime partie de la population,
arrête un peu de
c'est impossible avant que jeunesse. Je suis né avant toi et j'ai commencé à skier à 3 ans. Non mais, Christophe, Il faut que tu saches garder raison. Je suis né avant toi et je suis au Savoyard. À 3 ans, j'étais sur les planches. Ben mais c'est pas là le débat. Le débat, c'est que les Jeux Olympiques d'hiver, je ne vois pas pourquoi et sous quel prétexte on inclurait des sports qui ne sont pas des sports d'hiver, qui ne concernent pas, qui se pratiquent pas sur la glace ou sur la neige.
Pascal, je vais t'apporter un argument. Les Jeux d'hiver ont été créés pour les sports qui se pratiquent pas l'été, parce qu'on ne peut pas tout faire. Voilà. Et qu'aujourd'hui, on a un problème. C'est qu'on ne peut pas dépasser 10 500 athlètes.
Il y en a trop l'été, il y en a pas assez l'hiver.
Laisse-moi terminer. Et aujourd'hui, pourquoi Sébastien Co il prend la parole? C'est parce qu'aujourd'hui, on essaye de rajouter des disciplines, donc on va dépasser le quota des sportifs capables d'être accueillis dans les Jeux d'été. Donc on essaie d'alléger. On essaie d'alléger les JO d'été pour transférer des athlètes sur les Jeux d'hiver. C'est juste pour ça. Et quand tu choisis un sport co ou quand tu parles du judo, tu as donc beaucoup d'athlètes en fonction des disciplines et les sports co aussi. Donc ça va alléger et ça va permettre. Parce qu'en fait, le débat, il est tout le temps là. C'est que chaque année, à chaque édition, il y a des sports en démonstration et que le pays qui accède à la réception des Jeux peut apporter des sports supplémentaires. Mais à force d'apporter des nouveaux sports,
dans les jeux d'hiver aujourd'hui, on a des disciplines. C'est juste une question de quota.
Il y en a moins de 3000 dans les Jeux d'hiver. Donc en fait, on a un gap qui fait qu'on va pouvoir transférer des athlètes des Jeux d'été pour alléger les Jeux d'été et continuer. Mais moi, j'ai une autre idée. Dans ces cas-là, s'il faut alléger les Jeux d'été, pourquoi vous mettez pas des disciplines sur les Jeux para d'été? Ça pourrait leur servir de vitrine. Et on éviterait d'envoyer des sports en plein hiver, alors que t'as les championnats du monde et les championnats d'Europe de hand et qui se déroulent tout le temps au mois de janvier. On a les Jeux para, il y a de la place. Et aujourd'hui, on en fait tout un pataquès en disant on doit les considérer comme les Jeux valides. Eh ben, transférons des disciplines sur les Jeux para.
Moi, je pense que On parle de sport d'hiver. Donc on est sur les Jeux d'hiver, on parle de sport d'hiver, on veut les Jeux.
Et l'hiver en Afrique, il y a beaucoup de neige, vous pensez?
Non, mais
en Indonésie, il y a beaucoup de neige.
Il y a pas de Jeux d'hiver en Afrique.
Ben non, mais donc tu exclus.
Parce qu'il y a pas de neige en Afrique, faudrait donc
tu exclus une partie du monde alors que
en Argentine, les Jeux d'hiver sont pas diffusés par exemple.
Non, pas du tout. Mais par contre, tu vois, alors pourquoi on va pas mettre?
Donc c'est pas mal ce que vous dites. Donc faudrait supprimer les Jeux d'hiver sous prétexte qu'il y a pas de neige sur d'autres continents.
Les Jeux sont aussi une vitrine. Ouais. Les Jeux sont. On parle des Jeux d'hiver. Les Jeux sont une vitrine pour faire voyager les gens, pour créer. On le voit sur toute la politique qui va être mise en place sur les Jeux de France 2030. Sont aussi dans la protection de l'environnement. On parle de rajouter. Mais est-ce qu'on parle aussi de protéger? Moi, je sais que je suis un désastre écologique parce que je voyage beaucoup pour la pratique de mon sport d'hiver. Mais on a commencé à retirer le fluor. On en avait parlé ensemble. Christophe, on a retiré le fluor pour commencer à protéger la planète. Est-ce qu'il ne faut pas réagir comme ça? Est-ce qu'il ne faut pas réfléchir à plutôt
le côté sportif, est-ce qu'il ne faut pas réfléchir à protéger ce terrain de jeu?
Donc ça veut dire que tu voudrais réduire le nombre de disciplines l'été, l'hiver, et faire un truc à l'ancienne, quoi.
Pas à l'ancienne,
comme en 36.
Non, mais pas à l'ancienne, mais qui est aujourd'hui en phase avec la réalité du terrain. On a une fonte de la neige, on a des saisons qui deviennent de plus en plus courtes. Eh bien, adaptons-nous. Alors, est-ce que s'adapter, c'est faire entrer le cyclocross? Moi, je ne suis pas fan parce que je suis une athlète de sport d'hiver et je veux voir.
Et le cyclocross, c'est un sport d'hiver?
Oui.
Mais il n'y a pas de neige, Marseille, si. Ça me font du problème, en fait. Pas toujours.
Non, pas toujours. Je suis désolé, quand en Tchécoslovaquie, il y a eu des championnats du monde
de
cyclocross.
Il y a
de la neige.
Alors, pourquoi on fait pas? Alors, on peut faire aussi du VTT de descente ou du VTT.
Non, mais à ce moment-là, on peut mettre de la neige artificielle autour des terrains. Comme ça fera plaisir à Pascal et on pourra faire une épreuve de cyclocross.
Mais tu sais quoi? Moi, j'ai pensé à un truc.
Alexis Pinturo a dit hier sur RMC, les jeux d'hiver ne sont pas les jeux de neige.
Mais oui, c'est pas les jeux de neige.
En fait,
se déroulent à une période qui est
période de l'année.
En fait, vivement.
Pascal, le mot de la fin.
Mais les tenants de la tradition.
Vivement que je prenne 10 ans de plus et qu'on nous propose le Tour de France sans vélo.
Non,
bientôt. Mais mon pauvre Pascal, dans 10 ans ou dans 20 ans, le problème, c'est qu'il y aura de la neige plus que sur les glaciers. Et donc, les compétitions de ski, eh bien, seront de plus en plus difficiles à organiser. Okay. C'est pour ça qu'il faut.
On s'adaptera à ça dans 10 ans. Bah, sinon, on met du ski roue aussi au sport d'été.
Avec ou sans neige, dans quelques instants.
Du ski roue au ski d'été.
Quoi qu'il arrive, les amis. Je vous donne des nouvelles rassurantes. Tiens, de football, c'est important. Nouvelles rassurantes à Madrid pour Kylian Mbappé. Le Français a déjà réalisé des tests avec le service médical du Real. Au sein du club, on assure que Mbappé n'a rien de grave. Il pourrait s'entraîner avec le groupe la semaine prochaine. Il devrait avoir environ 3 jours de repos pour éviter de reprendre un coup au même endroit. Il pourra ensuite retrouver les terrains. Donc ça va.
Pas envie d'aller en Islande.
Ils sont pas si mécontents. C'est Edgar Grollo, notre correspondant en Espagne, qui nous envoie ces informations pour RMC. Évidemment, dans quelques instants, soyez prêts, s'il vous plaît. Préparez-vous mentalement. Les jeux du sport arrivent, à tout de suite.
RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Georges Quirino.
Les grandes gueules du sport, la dernière ligne droite, tout de suite on joue.
RMC, les jeux du sport.
Je vous rappelle le principe, vous allez défendre un auditeur. On a réparti les équipes de la façon suivante. Donc on aura une équipe de 3, une équipe de 2. L'équipe de 2, c'est Cieux Madio, ensemble les grisonnants. Et donc équipe Pitkowski, Hernandez, Duprat. C'est OK pour vous? On accueille tout de suite les auditeurs, Sylvie et Laurent. Bonjour Sylvie et Laurent.
Bonjour.
Sylvie, c'est toi qui as appelé en premier, donc tu peux choisir ton équipe. C'est Cieux Madio ou Pitkowski, Hernandez, Duprat? La première ou la deuxième équipe?
Comme je suis un peu amoureuse de Christophe,
Christophe et Marc.
C'est incroyable ça.
J'ai dit un peu.
Un peu, ouais, mais un peu, c'est déjà une belle journée.
Ça, c'est les physiques de radio, ça.
Voilà. C'est déjà un bel effort.
Sylvie a donc choisi Christophe parce qu'il est beau. Tout simplement. Je voulais rappeler. Donc, comme le cadeau à gagner, le PC portable Altic, marque française, installé à Nantes. Je vous le rappelle. Allez, c'est parti, les GG. Question à une seule réponse. Le plus proche l'emporte. Une seule réponse, le plus proche l'emporte. Combien de Français ont remporté le Tour de Lombardie?
Bon, j'avoue, qu'est-ce que j'en sais.
Combien de Français?
2.
8, 2. Si vous faites la réponse, 5, Sarah.
Allez, 4.
8, c'est 9 la réponse. Donc, Marc Madiot était le plus proche.
Bon, c'est un peu normal.
Un point. Question pour les auditeurs. Sylvie et Laurent, c'est pour vous. La dernière fois que les Bleus du football avaient affronté l'Azerbaïdjan en 95, quel était le score?
J'ai pas le droit de le
dire. Laurent,
10-0. 10-0,
c'est oui.
Bravo. C'était bravo. 10-0. Bien joué, Sylvie. Question. À une seule réponse, s'il vous plaît, les GG. Une question de basket, Fred Weiss n'est pas là. LeBron James se lance dans une nouvelle saison NBA. C'est sa combienième saison? Le plus proche l'emporte.
Il se lance dans une saison 25. Cognac surtout.
25, dit
22.
Christophe, 22.
19.
Pascal?
23.
23, Pascal, en plein
bien
temps.
Voilà.
Et il a attendu, il est malin, le Pascal.
À l'extérieur, il a le temps de regarder.
Oh, mais arrêtez.
Trop facile.
Jamais. Là,
non. Hé, les enfants, je tiens à vous le dire, je ne regarde pas. Arrêtez de me poser la question.
Je suis d'accord, Pascal.
Voilà, je suis pas tricheur. Voilà,
non, jamais. Moi, Christophe, peut-être qu'il triche plus en étant en studio.
Peut-être si j'ai Christophe en face de moi, oui.
Question à une seule réponse, les GG. Rinderknecht en demi du Masters 1000 de Shanghai. Qui est le dernier français à avoir remporté un Masters 1000? le dernier Français à avoir gagné un Masters 1000, c'est qui?
Arthur Fils.
Non, tu es éliminé. Dernier Français à avoir gagné un Masters 1000
Tsonga,
Sarah, bien joué.
Bien, Sarah.
Canada.
Bravo, Sarah.
2-2, Canada, c'était à Toronto en 2014, voilà. Tout à fait.
Dis donc, c'est comment ça?
Question pour les auditeurs. Sylvie et Laurent, c'est pour vous. Quel joueur de rugby a initié le débat sur le salary cap ces dernières semaines?
Dupont-Laurent.
Pitco Hernandez Duprat, vous passez devant.
Oui.
Question à élimination, le vainqueur gagne 2 points, je le précise. Voilà. Question à élimination, je rappelle, c'est chacun répond à tour de rôle. Une erreur et vous êtes éliminé. Donnez-moi les lieux des JO d'hiver déjà passés depuis sa création en 1924. Christophe, c'est toi qui commence.
Chamonix.
Chamonix en 1924. C'est bon, ça.
Je vais vous dire Albertville.
Albertville 92, ça marche. Pascal.
Sochi.
Sochi 2014, ça marche. Marc.
Grenoble.
Grenoble, évidemment, 68. Cécile. Vancouver 2010, ça fonctionne. Christophe.
Garmisch.
Garmisch?
Non.
1936, bien sûr. Bah oui, bien sûr. Ah, et bien sûr.
Les Jeux d'Hitler.
Les Jeux d'Hitler. Je ne les trouvais pas. Sarah. Attention, on ne cède pas, Sarah.
Oui,
on
ne cède
pas, on
ne cède pas, on ne cède pas. Je ne lui demandais pas. Calgary.
Calgary, ça marche. Marc, je crois.
Marc. Non, moi.
Marc. 5. Non, Christophe. 5. 4.
On est ensemble.
3.
Ensemble.
Allez, stop.
2. 1. Éliminé. Non, on n'a pas le droit de céder, les amis. Cécile, arrêtez de nous aider, s'il vous plaît.
3 et moi, je peux pas Cécile. Aider mon compagnon.
Je vous le fais à version Beijing.
Beijing, c'est Pékin, évidemment. Christophe, attention, tu es seul contre tout le monde. On ne cède pas, s'il
Christophe,
vous plaît.
Christophe, t'es encore
dans Pascal, pardon, Pascal.
Pascal.
Sapporo.
Sapporo,
oh, bien joué.
Quelle culture, 72. Il applaudit. Christophe.
Nagano.
Ah, ici, même. À Nagano, ici, évidemment, Nagano. 98.
Moi, c'est Lillehammer.
Lillehammer, 94.
Ça, c'est
Cécile.
Pyeongchang,
bien sûr, 2018. Pascal.
Oh là là.
Et là, moi, je veux.
5, 4, 3, 2, 1. Éliminé, Pascal. Christophe. Christophe, on ne triche
il
pas.
Il est en train de tricher.
Non, non, non.
Arrête,
rien.
Christophe, tu triches.
Salt Lake City 2002.
Salt Lake City 2002.
On l'a déjà dit.
Non, on l'a pas dit encore. Sochi.
Sarah.
J'en ai plus. J'en ai
5,
j'en
ai
plus.
4,
j'en ai
3,
plus,
2, 1.
Si,
Sarah.
Turin.
Turin,
oui.
Putain, je le sors.
Cécile, Cécile.
Bien.
J'allais dire Turin.
Arrête de tricher, Christophe.
Christophe, arrête de tricher.
5, 3, 2, 1. Éliminé, Cécile. Pascal.
Ah non, je suis éliminé déjà.
Ah oui, Pascal éliminé, pardon. Christophe.
Ouais, Innsbruck, 1960.
Innsbruck.
Christophe, arrête de tricher.
Je n'ai rien.
Sarah. Sarah, 5, 4.
Moscou, c'est des jeux d'été.
Non, bravo. Moscou, il n'y a pas. Christophe, en a encore un.
Non, allez, Christophe.
Il reste quoi?
Grenoble,
non, Grenoble, on a dit.
64.
Non, mais c'est bon, de toute façon, la victoire est pour Christophe, ah ouais. Qui marque les 2 points et donc qui permet à l'équipe Cessieux Maillot de s'imposer à Sylvie. Sylvie de remporter l'ordinateur de la marque Altic. Félicitations, Sylvie.
Merci Anna, merci Christophe.
Merci Sylvie.
Bravo, Sylvie.
Là, on a formé un bon
on
team,
va te donner
là.
Le portable de Christophe.
Allez, Wardy encore. Allez.
Jouez au jeu du sport sur RMC et gagnez un PC portable Altic 16 pouces garanti 3 ans. Altic, la marque française d'ordinateurs basée à Nantes. Rendez-vous sur altic.com.
Il restait Saint-Moritz, il restait Lake Placid, il restait Oslo. Il restait Cortina d'Ampezzo.
Ouais, oui.
Il restait Squaw Valley également aux États-Unis.
Squaw Valley.
Ah ouais. Squaw Valley. Merci tout le monde. Pascal, tu restes avec moi parce qu'il y a les paris RMC tout de suite. On va parier. Merci les grandes gueules du sport. À demain.
À demain.
Bye bye.
Jusqu'à 13h.
Les paris RMC.